Ce matin, il n'y a pas de suspense. Vous connaissez le sujet que je vais aborder, puisque je l'ai annoncé dimanche dernier, ainsi que dans le mail que je vous ai envoyé cette semaine. Il y a des paroles bibliques qui sont plus connues que d'autres, et celle de ce matin en fait partie. C'est une parole que beaucoup connaissent par cœur. C'est une parole qui est souvent citée. Cette parole se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 28. Et je vais la lire dans deux versions, deux traductions différentes, et je parlerai des différences un petit peu plus loin. Tout d'abord, si... Il faut toujours un petit peu quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour nous garder les pieds sur terre. Ça va venir, ça va venir. Oui. Bon, ça vous donne le temps de chercher dans vos Bibles, Romains 8, verset 28. Ah, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc tout d'abord, la traduction de la Bible du Semeur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et puis, j'ai choisi la traduction de la Bible à la Colombe. Oula. La Bible seconde, ça aurait été pareil, l'ancienne seconde. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà donc la parole que nous allons méditer ce matin. C'est une parole qui a souvent été d'un grand réconfort pour beaucoup de chrétiens. Ceci dit, elle a aussi, paradoxalement, souvent blessé, désarçonné des chrétiens dans l'épreuve, à qui elle a été donnée de façon maladroite, par exemple. En effet, combien de personnes dans le deuil, par exemple, ont entendu cette parole qu'ils ont reçue et comprise comme leur interdisant d'être tristes, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme une minimisation de leur souffrance, puisque ce qui compte, c'est le bien qui va en résulter. Notre parole est donc une parole bienfaisante, mais souvent mal utilisée ou mal comprise, simplifiée et rarement prise dans son contexte. Et vous savez ce que l'on dit à ce sujet, une parole sortie de son contexte devient un prétexte. Et notre parole est devenue une sorte de slogan biblique, passe-partout, que l'on utilise à tout va, sans toujours bien en mesurer les effets. Il n'est donc pas surprenant que notre parole suscite souvent beaucoup d'incompréhension parmi les chrétiens. Beaucoup d'incompréhension car elle est finalement peu comprise, à mon sens, de la bonne manière. Voici quelques exemples non exhaustifs. On comprend souvent que si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, alors puisque j'aime Dieu, tout finira par me sourire. Alors si je suis chrétien, si j'ai la foi, toutes les mauvaises choses de ma vie, toutes les épreuves finiront par s'arranger. Si je suis malade, Dieu va me guérir. Si mon mariage bat de l'aile, Dieu va arranger tout ça. Si j'ai des dettes, Dieu va les faire disparaître, etc. On comprend souvent aussi que si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, alors tout ce qui arrive dans ma vie est forcément voulu par Dieu. Alors il y a toujours une raison à tout ce qui arrive dans ma vie. Est-ce que ces compréhensions sont justes? Est-ce là la bonne façon de comprendre notre verset et ses implications? Et la réponse à ces questions, en tout cas ma réponse, de mon point de vue, c'est non. Ces compréhensions-là ne sont pas justes et ne sont pas bibliquement compréhensibles ainsi. Que se passe-t-il quand nous comprenons les choses telles que je viens de les énumérer? Il se passe que nous nous retrouvons rapidement dans une impasse. Pourquoi? Parce que force est de constater, et nous le constatons tous, que tout ne finit pas toujours par s'arranger, même pour les chrétiens. Tout ne finit pas toujours par s'arranger, même pour les chrétiens, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui perdent leur emploi, il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des chrétiens qui tombent malades et qui ne guérissent pas, il y a des chrétiens qui meurent, etc. Tout ne finit pas toujours par s'arranger, même pour les chrétiens. C'est pourquoi notre parole, quand elle est comprise, mal comprise à mon sens, quand elle est comprise comme je l'ai énumérée, mal comprise donc à mon sens, cela amène les chrétiens soit dans la culpabilité, parce que si ça n'a pas marché, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. C'est sans doute parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu assez de foi. Ou alors peut-être parce que je n'ai pas assez prié. Ou alors parce que je n'ai peut-être pas donné assez à l'offrande dimanche dernier ou que sais-je. Il y a des prédicateurs qui, dimanche après dimanche, culpabilisent leur audience de cette manière, avec ce discours. Soit elle les amène, les chrétiens, dans la perplexité, le doute et parfois même la révolte. Comment ce qui est mal pourrait-il être bien? Pourrait-il être pour mon bien? Comment Dieu peut-il permettre un mal dont je souffre pour un bien? Et ces chrétiens, peut-être vous, finissent par avoir du mal à croire notre parole. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons devant une parole très connue, mais que peu croient finalement vraiment. J'aimerais suggérer ce matin que notre parole n'a pas été donnée, n'a pas pour visée de nous culpabiliser ou de susciter en nous le doute, mais plutôt la reconnaissance, la confiance et la paix. Mais il faut pour cela que nous la comprenions dans l'intention de son auteur. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par nous arrêter sur le contexte immédiat de cette parole. Et ce sera notre deuxième point après ces paroles d'introduction. Quel est le contexte de notre texte, de notre verset? Il y aurait bien évidemment ici beaucoup à dire, tant l'Épître aux Romains est riche. Je me contenterai essentiellement des quelques versets qui précèdent ce verset 28 du chapitre 8. Et en regardant l'ensemble de ces versets qui précèdent, à partir du verset 18, donc vous voyez ces 10 versets, nous arrivons rapidement à la conclusion que notre parole, ce verset 28, répond à ce que Paul vient de dire dans ces 10 versets qui précèdent, répond au soupir dont il parle dans ces versets qui précèdent. Et il y a tout d'abord, dans les versets 18 à 22, les soupirs de la création. Vous connaissez ce texte, je l'ai affiché. Les soupirs de la création qui est soumise à la vanité, dit Paul, soumise à la servitude de la corruption. En d'autres mots, soumise aux conséquences de la chute, soumise au péché et à ses conséquences dans le monde. Premier soupir, les soupirs de la création. Et puis, dans les versets 23 à 25, il y a nos propres soupirs. Bien que nous ayons les prémices de l'Esprit, dit l'apôtre Paul, nous soupirons aussi, car nous sommes aussi affectés par la chute et par le péché et par les conséquences de tout cela. C'est pourquoi nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, dit Paul. Nous soupirons en attendant, en espérant, parce que c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et puis, dans les versets 26 à 27, il y a les soupirs du Saint-Esprit. Les soupirs du Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ainsi, le Saint-Esprit se joint à nos soupirs, à notre souffrance, dans l'attente douloureuse qu'est la nôtre, de la gloire qui sera un jour révélée. Et c'est là qu'arrive notre verset. Et il arrive comme la réponse à nos soupirs, aux souffrances du temps présent. D'un côté, la réalité douloureuse dans laquelle nous vivons et qui nous fait soupirer, qui nous fait espérer et attendre la délivrance, désirer cette délivrance. C'est la réalité des souffrances du temps présent qui est mentionnée au verset 18. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité de tout ce que Dieu a mis en œuvre et met en œuvre pour que nous ne soupirions plus un jour. C'est la réalité de la gloire à venir qui est l'aboutissement du plan que Dieu a mis en œuvre pour le salut de celles et ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son plan. Voilà comment s'articule notre passage avec notre texte, dans son contexte immédiat. Notre texte qui d'ailleurs commence en disant « d'autre part » ou « du reste » ou « en outre » selon les traductions. Oui, il y a la réalité des soupirs, il y a la réalité de nos souffrances du temps présent que l'apôtre ne minimise absolument pas. Mais ce n'est pas la seule réalité, dit-il. Il y a aussi d'autre part, à côté de cela ou en plus de cela, la réalité de Dieu qui est à l'œuvre pour notre bien. C'est ce que dit notre verset. À ceux qui soupirent à cause de leur souffrance du temps présent, l'apôtre apporte le réconfort de la certitude de la souveraineté de Dieu pour leur bien. Passons maintenant à quelques explications pour essayer de mieux comprendre notre verset. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Comment faut-il le comprendre ? Ce sera notre troisième point et nous commençons par une difficulté grammaticale qu'il faut aborder. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut quand même rapidement dire une ou deux choses. La difficulté principale de ce texte, c'est que son verbe principal, qui est traduit en français par « concourir » ou « coopérer », ce verbe-là, dans la phrase en grec, peut avoir plusieurs sujets. Le sujet peut être soit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est la traduction qu'on connaît la mieux, ou alors il peut avoir pour sujet « Dieu »,« Dieu coopère », fait coopérer toute chose, ou alors le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lu ces deux traductions au début. Dans celle du semeur, c'est Dieu qui est le sujet, Dieu fait travailler toute chose pour le bien de ceux qu'il aime. Et puis dans la traduction à la colombe, c'est toute chose qui est le sujet, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on aurait pu citer une troisième traduction où c'est le Saint-Esprit qui fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous remets les deux traductions où vous voyez bien la différence de sujet pour notre verbe. Alors, qui est-ce qui fait concourir toutes choses ? Toutes choses pour notre bien. Je cite ici, pour aller rapidement, une note de la Bible du Semeur qui dit ceci. « Même pour ceux qui voient en toutes choses le sujet du verbe concourir, il est clair que ce ne sont pas les choses qui agissent par elles-mêmes, au bien de ceux qui aiment Dieu, mais Dieu qui, par son esprit, intercédant pour nous, c'est les versets qui précèdent, contrôle toutes choses. » Ainsi, je fais simple, hein, mais ainsi, quelle que soit la traduction que nous retenons, quel que soit le sujet que nous retenons, ça revient finalement au même. Parce que nous comprenons que c'est Dieu qui agit, que cela soit dit explicitement ou pas, que cela soit formulé d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et si toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui est derrière toutes choses pour les faire coopérer. Tout ce qui arrive est sous la maîtrise de Dieu et nous assiste pour notre bien. Toutes choses, avons-nous dit. Oui, parce que c'est ce que dit notre verset. Et c'est notre sous-point suivant. Toutes choses, ça inclut toutes choses. Paul ne dit pas certaines choses. Paul ne dit pas les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, ça veut donc dire les bonnes, mais aussi les mauvaises. Celles qui nous réjouissent et celles qui nous blessent. Celles qui sont prévisibles et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont compréhensibles et celles qui ne le sont pas. Toutes choses. Il n'y a rien en dehors de toutes choses. Et Paul affirme donc ici que Dieu se sert de tout. De tout ce qui compose ce monde, de toutes les choses, les bonnes et les mauvaises, pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que se servir de toutes choses pour le bien, etc., ne veut pas dire que toutes choses sont bonnes. Il ne faut pas faire cette petite bascule. Dieu ne nous demande pas ici de considérer comme bon ce qui est mauvais. C'est une mauvaise compréhension des choses. Le mal est toujours mauvais, jamais bon, même si Dieu s'en sert pour le bien, ça reste un mal. La mort, la maladie, le cancer, tout ce que vous voulez, toutes ces choses sont mauvaises en elles-mêmes et jamais bonnes. Ces choses sont toujours mauvaises, mais Dieu peut s'en servir, et Dieu s'en sert, comme il se sert des bonnes choses pour notre bien. Voilà ce que nous devons comprendre ici. Et c'est ici qu'il faut rappeler que les chrétiens ne sont pas particulièrement épargnés. Certains le pensent. Ce n'est pas mon cas. Les chrétiens ne sont pas particulièrement épargnés, mais bien qu'ayant les prémices de l'esprit, ils soupirent, c'est ce que nous venons de voir. Ils souffrent comme les non-chrétiens. Ils connaissent les mêmes tragédies dans leur vie que les non-chrétiens. Mais alors me direz-vous peut-être, si vous en aviez l'occasion, mais à quoi ça sert alors d'être chrétien ? À quoi bon ? Quelle est la différence ? Finalement, si c'est pareil, à quoi bon ? La différence, qui est une grande différence, c'est que quand les chrétiens souffrent, ils peuvent s'appuyer sur le Seigneur dans leur détresse. Ils peuvent compter sur ses promesses et sur la promesse en particulier de la délivrance à venir, de la gloire à venir. En sachant que Dieu tient toutes choses dans sa main et qu'il s'en sert pour le bien de son peuple. Chers amis, cette compréhension des choses, des voies de Dieu est essentielle. Essentielle au risque pour nous de ne plus rien comprendre à Dieu et à ses voies. Au risque de nous retrouver dans une impasse quand nos circonstances sont difficiles, voire incompréhensibles. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain et tout-puissant, il tient toutes choses dans sa main et rien n'échappe à son contrôle. Ce n'est pas le diable qui est aux manettes de notre monde ou de nos circonstances, même si parfois les apparences sont contraires. Bien sûr, il est à l'œuvre, c'est une évidence, mais au-dessus de lui, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est souverain. Il y a Dieu qui pose les limites qu'il ne peut pas franchir. Nous le voyons dans le livre de Job, par exemple. Il y a Dieu qui est tellement grand et tellement puissant qu'il peut même se servir et qu'il se sert de ce qui est mauvais dans ce monde pour le bien éternel de ses enfants. Mais peut-être me direz-vous que ça serait finalement beaucoup plus simple si Dieu réglait une fois pour toutes la question du péché et de ses conséquences. Pourquoi faire avec, après tout, s'il pouvait plutôt s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Mais en réalité, c'est exactement ce que Dieu a déjà fait en Jésus. C'est bien pour cela que Jésus est venu. C'est exactement pour cela que Jésus a donné sa vie sur la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Sa victoire, c'est la victoire sur la mort, sur le péché, sur toutes les conséquences du péché. Sa victoire, c'est la victoire sur le diable et sur toutes ses puissances mauvaises et tous leurs agissements. Mais cette victoire, bien qu'acquise, bien que garantie, n'est pas encore pleinement établie. Et il faut encore attendre que Jésus revienne. Il faut encore attendre que Jésus revienne. Alors, dit Paul, dans Philippiens au chapitre 2, versets 10 et 11, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, dit Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 24, le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, nous vivons dans un entre-deux. Nous avons déjà tout ça, mais tout ça n'est pas encore pleinement en place. Il faut attendre le retour du Christ pour cela. Et donc nous sommes dans cet entre-deux, nous sommes dans cette attente, nous sommes dans cette espérance. Et cela veut dire que pour l'heure, bien que nous sommes déjà au bénéfice de la victoire du Christ, bien que possédant déjà les prémices de l'Esprit, nous souffrons encore et nous soupirons encore en attendant la gloire qui est à venir. Nous souffrons et nous soupirons, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et il est en train de faire concourir toutes choses pour la réalisation de son plan, pour le bien de ceux qu'il aime et qu'il a appelés selon son plan. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Mes amis, c'est un mystère. C'est un mystère et il faut le reconnaître. C'est un mystère que nous devons saisir par la foi, qu'il nous faut accepter même si nous ne comprenons pas tous les rouages et tous les mécanismes de cette souveraineté de Dieu. C'est un mystère qui trouve son explication dans la grandeur de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu immensément grand qui peut faire concourir toutes choses pour la réalisation de son œuvre. Un mystère qui trouve son explication dans la toute-puissance de Dieu. Il faut un Dieu tout-puissant pour cela, dans sa souveraineté aussi. C'est un mystère, mais il y en a plusieurs autres dans la foi. Ce n'est pas le seul. C'est un mystère, mais nous devons nous rappeler que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour croire. D'ailleurs, si nous comprenions tout de Dieu et de ses voies et de sa grandeur, ça voudrait dire en réalité que Dieu est bien petit, c'est-à-dire aussi petit que mon intelligence qui n'est pas très grande. Il est donc tout à fait normal que ce que Dieu fait nous dépasse complètement quand nous y réfléchissons un peu. Il est normal que Dieu et ses œuvres nous dépassent complètement. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de tout comprendre. Dieu nous a révélé ce que nous avions besoin de comprendre pour être sauvés. Ce que nous avons besoin, ce n'est donc pas de tout comprendre. Ce que nous avons besoin, c'est de croire. C'est de croire ce que Dieu dit, ce qu'il dit dans sa parole. C'est croire ses affirmations, les affirmations et les promesses de sa parole. Et c'est précisément ce que dit notre verset. Ce qu'affirme notre verset, et c'est le sous-point suivant. Nous savons. Nous savons. C'est ainsi avec ce verbe que commence la phrase en grec. Nous savons. Notez bien que Paul ne dit pas « nous pensons », « nous imaginons que », « nous aimerions que », « nous souhaiterions », etc. Non, il dit « nous savons ». Nous savons. Paul annonce ici que ce qu'il va dire dans ce verset est une certitude, est une assurance. Ce n'est pas juste une construction intellectuelle. Ce n'est pas juste des hypothèses comme ça qu'on met ensemble pour voir si ça fonctionne, une espèce de déduction logique. C'est une assurance que l'Esprit Saint produit en nous. C'est l'assurance que donne la foi. Vous connaissez ce verset de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs commentateurs disent ici que c'est un peu comme un contrat d'assurance. Dieu nous dit ce qu'il assure, ce qu'il nous garantit. Et que nous dit-il ? Que nous assure-t-il ? Dans ce verset, il nous assure qu'il est souverain, il nous assure qu'il tient toutes choses dans sa main, même si nous avons du mal à le croire en regardant autour de nous, et il nous assure qu'il est à l'œuvre pour que toutes ces choses travaillent ensemble pour un seul but, le bien de ses enfants. Pour le bien de ses enfants. Alors il est temps maintenant de définir ce bien. Ce bien en question, de quoi s'agit-il ? C'est le sous-point suivant. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est ici, très souvent, que le bât blesse dans la compréhension de ce verset. C'est souvent ici que les mauvaises compréhensions voient le jour. Quelles sont-elles ? J'aimerais rapidement en évoquer quelques-unes, faire le lien avec une ou l'autre chose que j'ai dit en introduction. Notre texte, par exemple, ne dit pas que les choses mauvaises qui sont incluses dans le « toute chose » de notre texte sont bonnes en elles-mêmes. Ça, on l'écarte, ce n'est pas ce que dit le texte. Il ne dit pas non plus que ces choses mauvaises deviennent bonnes parce que Dieu les utilise pour le bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas ce que dit notre texte non plus. Il ne dit pas non plus que tout finit par toujours s'arranger, puisque Dieu tire du bien de toute chose. Ce n'est pas ça que dit notre texte. Et il ne dit pas enfin que Dieu travaille toute chose pour notre confort ici-bas, pour notre bien terrestre, pour notre bonheur et notre jouissance jour après jour. Le texte ne dit pas ça non plus. En fait, le bien de notre texte n'est pas le bien tel que nous le comprenons généralement. D'où les mauvaises compréhensions de notre texte, parce que nous avons tendance à nous focaliser sur le bien ici et maintenant, le bien présent, sur notre confort, le bien du moment présent. C'est assez normal, c'est compréhensible, c'est logique que nous raisonnions ainsi. Mais ce n'est pas de cela dont parle notre texte, en tout cas pas premièrement. Bien sûr, Dieu bénit ses enfants. Et il le fait déjà ici-bas. Mais notre texte ne parle pas de cela. Et en fait, notre texte va beaucoup plus loin, avec une autre perspective. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que c'est ce que dit la suite de notre texte. Et c'est pour ça qu'il faut toujours replacer un texte dans son contexte. On va lire le verset 28 avec le verset 29 et avec le verset 30. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En fait, ce que nous comprenons avec ces textes, avec ce verset remis dans son contexte, quand nous replaçons les choses dans cet ordre-là, nous voyons la pensée de l'apôtre, nous voyons comment il poursuit sa pensée. Et nous voyons que le bien du verset 28... c'est en réalité notre bien éternel. C'est de cela dont il est en train de parler. Dans les mots de Paul ici, au verset 29, ce bien du verset 28, c'est notre conformité à l'image de Jésus-Christ. C'est ça le bien que Dieu poursuit. Notre conformité, notre ressemblance à Jésus. Ce bien éternel, c'est notre salut, c'est la gloire qui nous est promise. Promise à qui? À ceux qu'il prédestine, à ceux qu'il appelle, à ceux qu'il justifie et à ceux qu'il glorifie. Que dit Paul ici? Il dit que Dieu s'est donné pour but, Dieu s'est donné pour but de nous rendre conformes, semblables à son Fils. Et pour cela, pour arriver à atteindre cet objectif, il travaille toutes choses ensemble, les bonnes et les mauvaises, celles qui nous réjouissent et celles qui nous blessent. Il travaille tout cela ensemble pour atteindre ce bien suprême pour chacun de nous. Parce que c'est cela, finalement, le plus important dans la perspective de l'éternité. Pour l'instant, comme le dit le petit chœur que nous chantons parfois, « Te ressembler Jésus », c'est encore un espoir, et même un espoir suprême. « Te ressembler Jésus », c'est mon espoir suprême. Mais un jour, quand Jésus reviendra, quand nous le verrons tel qu'il est, cette œuvre que Dieu a commencée en chacun de ses enfants, Philippiens 1 et 6, il l'achèvera, il la rendra parfaite. Et l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, nous savons, que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Mes amis, voilà le bien du verset 28. le bien auquel Dieu travaille ici-bas sans relâche, en faisant coopérer, concourir, travailler ensemble toutes les circonstances de nos vies, de ce monde, les bonnes et les mauvaises, pour qu'un jour chacun de ses enfants soit conforme à son Fils. Nous avons parlé d'un contrat d'assurance. Et vous le savez comme moi, dans tous les contrats d'assurance, il y a des conditions. C'est notre dernier sous-point. Parfois, dans un contrat d'assurance, certaines conditions sont écrites en tout petit, vous savez, tout en bas, tout petit. Il faut vraiment la volonté pour aller les lire, etc. Alors le but, c'est peut-être que nous ne les lisions pas, justement. Mais Dieu, lui, il n'écrit pas en tout petit dans la Bible. Il n'y a pas des parties comme ça, tout petit. Dieu parle et agit en transparence. Et dans notre texte, nous constatons qu'il y a deux conditions. Deux conditions qui sont clairement stipulées et qui nous font comprendre que ce texte ne parle pas d'un salut universel, que ce texte ne concerne pas tous les hommes et toutes les femmes vivant sur cette terre. Qui est concerné? Premièrement, ceux qui aiment Dieu. Nous savons que Dieu ou que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, premièrement, et deuxièmement, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou selon son plan, selon son projet. Il y aurait beaucoup à dire ici, bien évidemment, mais je vais faire court parce qu'il faut maintenant penser à terminer. Pour faire simple, ceux qui aiment Dieu, ce ne sont pas forcément ceux qui le disent. C'est aussi ceux qui le disent. Mais ce n'est pas forcément tous ceux qui le disent. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui ont répondu à l'amour de Dieu, qui est toujours premier, bien sûr. Nous avons ce texte à l'esprit tout de suite. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que nous avons répondu à son amour. Nous l'aimons parce qu'il a versé dans nos cœurs son amour. Romains 5:5. Ceux qui aiment Dieu, ce sont donc ceux qui répondent à l'amour de Dieu et qui répondent en obéissant à sa parole. Et là, j'aurais pu citer beaucoup de paroles de Jésus dans les évangiles qui dit que ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui gardent mes commandements, etc. Et puis, ce sont ceux que Dieu appelle, c'est-à-dire ceux qui sont appelés de Dieu, ceux en qui Dieu commence une œuvre à laquelle je réponds et une œuvre qu'il achèvera au jour de Jésus-Christ. Ce sont ceux qu'il a appelés selon son dessein, dit notre texte, ceux qu'il a connus d'avance, je vous dis qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on passe rapidement, ceux qu'il a prédestinés à être semblables à son Fils, tout ça ce sont des formulations de notre texte, ceux qu'il a justifiés et puis ceux qu'il a glorifiés. Notre parole n'est donc clairement pas une parole pour tout le monde, pour tous ceux qui disent « aimer Dieu », mais qui finalement n'en ont pas grand-chose à faire de ce que Dieu dit. La garantie de notre verset est donc une garantie limitée, pour reprendre un peu la terminologie du monde des assurances. Elle est limitée à celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus en réponse à l'appel de Dieu dans leur vie. On arrive à la conclusion. On n'a bien évidemment pas tout dit sur un texte aussi riche, mais je pense que nous avons dit l'essentiel pour bien comprendre ce verset qui peut facilement être mal compris. Chers amis, quelle œuvre merveilleuse que l'œuvre que Dieu est en train de réaliser dans nos vies et dans notre monde, et dans la vie de ses enfants en particulier. C'est une œuvre qu'il a voulu de toute éternité. C'est son plan de toute éternité. Nous amener à la ressemblance de son Fils. C'est son plan, c'est son dessein, c'est son projet et il y travaille sans relâche. C'est pour cela que Jésus est venu. pour renverser la vapeur, pour faire cette œuvre de recréation. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Et nous entrons dans ce projet. C'est une œuvre qui est acquise. Jésus l'a fait et tout est accompli, il l'a dit. Et nous attendons, nous sommes dans cet entre-deux, et nous attendons la pleine réalisation de cette œuvre au jour de Jésus-Christ. Mais cela veut dire que pour l'instant, dans cet entre-deux, ce n'est pas encore le ciel, ce n'est pas encore la gloire, c'est encore le temps des soupirs, c'est encore le temps de la souffrance, c'est encore le temps où nous espérons après quelque chose et où nous devons patienter, c'est encore le temps où nous ne comprenons pas toujours ce que nous vivons et ce que nous devons traverser. D'ailleurs, il faut le dire, il n'y a pas toujours d'explication. On aime bien tout comprendre, mais il n'y a pas toujours d'explication, si ce n'est que nous vivons dans un monde déchu, corrompu, où le mal existe et avec son cortège de conséquences. Il n'y a pas toujours d'explication aux épreuves que nous devons traverser. Dieu n'est pas derrière chacun des détails de notre vie. Parfois, c'est la bêtise humaine. Parfois, c'est les conséquences simplement de ce monde déréglé, etc. Mais toujours est-il que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et c'est là où nous avons besoin de croire cette parole, parce que autour de nous, nous ne le voyons pas forcément. Il est à l'œuvre en nous pour nous transformer à l'image de son Fils. Et pour cela, dans sa souveraineté, il se sert de tous les détails de nos vies pour réaliser son plan. Chers amis, quoi qu'il arrive dans notre vie, et certaines des choses qui nous arrivent sont difficiles, elles nous font vaciller, elles nous font mettre un genou à terre, par moments nous n'en pouvons plus. Ça, c'est la réalité de nos vies, de certaines de nos vies, ou de toutes nos vies à certains moments. Quoi qu'il arrive, Dieu, par ce verset, nous invite à la confiance. C'est vraiment ça, ce que ce verset veut accomplir en nous. C'est nous inviter à garder une pleine confiance en Dieu et en ses agissements. Il est à l'œuvre pour notre bien, pour qu'un jour nous soyons comme son Fils. C'est lui qui est aux manettes. Alors oui, nous ne comprenons pas tout, les apparences sont contraires, certaines circonstances nous blessent et nous font mal, mais Dieu est à l'œuvre. Il est souverain, il est tout-puissant, et au travers de ce texte, il nous invite chacun à lui faire confiance. C'est là où la foi intervient. À lui faire confiance. La foi, c'est marcher par la vue. Non. Marcher par la foi, sans tout voir, sans tout comprendre, mais en nous accrochant à la parole du Seigneur. Il nous invite à marcher en nous appuyant sur sa parole, sur ses promesses. Et il nous invite à croire qu'il tient toutes choses dans sa main. Et il nous invite à nous soumettre à sa volonté. Après tout, on le chante facilement, on le dit facilement, il est le Seigneur, faisons-lui confiance. Il est le Seigneur, faisons-lui confiance. Chers amis, notre vie est pleine d'incertitudes. Personne ne peut dire ce qui va se passer cet après-midi. Il y a un an, au début de l'année, on pensait qu'on aurait une année 2020 merveilleuse. Et puis, quelques semaines après, on a été rattrapé par la patrouille et puis on a passé une année que personne n'aurait pu imaginer. Porter des masques occultes, enfin, voilà, c'est ce que nous vivons actuellement. Qui peut dire ce qui se passera en 2021 ? Personne. Mais pour ce qui va se passer pour l'éternité, ça, nous pouvons le dire, parce que nous savons par la foi, nous savons, parce que Dieu nous l'a révélé. Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si notre passage nous invite à la confiance, et il le fait, et je termine avec cela, il nous met aussi chacun devant une question décisive. Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que je fais partie de celles et de ceux que Dieu a appelés selon son projet ? Et puis, le plus important de tout, est-ce que j'ai répondu à cet appel de Dieu dans ma vie ? Il appartient à chacun de répondre dans son cœur, et je vous invite à prendre maintenant quelques instants de silence pour terminer. Amen.